L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue chez L'Épluche Livre. Dans cette émission, comme à la librairie, nous sommes convaincus d'habiter les mots autant que les mots nous habitent. Quand on commence une lecture, on passe un seuil, une porte intérieure, qui nous pousse à cheminer vers un monde nouveau, comme une nouvelle maison. De cette maison littéraire, nous ressortons grandis, ébranlés, convaincus ou intranquilles. Toujours avec ce petit quelque chose en plus, cet indicible qui constitue notre maison intérieure.
Il était une fois, à la croisée des courants et des épices, puisée dans les terres cosmopolites, cette épice qui nous était si rare et si chère, nous étions partis là pour chercher.
Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'une autrice, poétesse, romancière et éditrice, Nour Kaddour. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Je suis ravie d'être avec vous à la radio pour discuter ensemble.
Merci, je suis ravie que vous ayez accepté cette seconde invitation dans cette émission pour un sujet complètement différent du précédent. Donc, on parlera quand même toujours poésie puisque c'est votre cheval de paix plutôt que de bataille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr, je m'appelle Nour Kaddour, je suis poétesse et romancière, mais effectivement, je suis principalement intéressée par la poésie. J'ai publié plusieurs recueils de poèmes. Le dernier recueil de poèmes s'appelle « Bait, habiter le poème » et est paru en décembre 2025.
Donc ce recueil « Bête, habiter le poème » qui m'a inspirée pour l'introduction de cette émission, vous l'avez écrit en compagnie d'un co-auteur, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. C'est un texte que j'ai initialement écrit en français et dans un second temps, il a été traduit en arabe. D'accord. Par Moez Aouled Ahmed et du coup, c'est un recueil qui est en édition bilingue.
Donc, c'est aux éditions Carnet du dessert de lune, dans la connexion sur un plateau. Oui. Donc, comment s'est fait cette idée, cette rencontre entre vos deux écritures et cette traduction ?
Alors, c'est une question qui est intéressante parce que justement, c'est vrai qu'elle s'est faite par le biais de rencontres. Initialement, ce texte avait été écrit dans un projet d'exposition de peinture, de mes peintures, où j'invitais justement les gens à habiter et de rentrer dans leur propre poème et leur propre maison. Et donc j'avais écrit des textes pour accompagner les tableaux. Suite à ça, j'ai une amie qui m'a dit « mais ça serait intéressant d'en faire un recueil de poèmes ». J'ai rassemblé donc les textes que j'avais écrits pour en faire un recueil. Puis après, la rencontre s'est faite avec Moez Aouled Ahmed, qui lui est metteur en scène et dramaturge plutôt. Il a mis en scène mon recueil « Le bleu de la mer s'est enfui » au théâtre.
D'accord.
Et donc c'est vraiment né d'une rencontre humaine. Puis quand il y a eu cette rencontre-là, pour moi, ce recueil avait aussi un sens d'exister en langue arabe, parce que toute la déclinaison de ce recueil se fait autour justement de la signification d'un mot qui est en arabe. Et c'est comme ça que je lui ai proposé, s'il était intéressé, de traduire ces textes et il a accepté.
C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu l'occasion de travailler ?
On a eu l'occasion de travailler ensemble pour la mise en scène du Bleu de la mer s'est enfui au théâtre, mais pas dans, effectivement, pas dans un système, en tout cas, de traduction ou de coécriture.
De processus d'écriture. D'accord, très bien. Et Carnet du dessert de lune, donc, ce n'est pas la première fois que vous collaboriez avec eux pour un texte. Comment se passe et continue à se dérouler cette collaboration que vous avez autour de votre bibliographie, puisque c'est quand même une relation qui dure entre vous?
Oui, tout à fait. Alors, j'avais un premier texte qui était paru en décembre 2023, Le bleu de la mer s'est enfui, au Carnet du dessert de lune.
Qui est magnifique, d'ailleurs.
Et j'étais très heureuse et satisfaite, en fait, de cette maison d'édition, non seulement par la portée, entre guillemets, du livre, mais aussi par le contact humain, le côté familial de cette maison d'édition qui m'a beaucoup plu et qui, je trouve, est très important. Et quand j'ai ensuite écrit ce texte, je leur ai proposé ce texte en leur expliquant également que c'était un texte qui avait aussi pour vocation d'être ensuite joué sur scène en lecture bilingue et avec un musicien qui joue du oud. Et la maison d'édition, justement, a créé spécialement cette nouvelle collection avec ce premier texte qui s'appelle « La lune sur un plateau ».
D'accord.
C'est vraiment une collection qui est dédiée à des textes ensuite qui seront amenés sur scène.
D'accord. Très bien. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de le porter en voix et en musique, ce texte ?
Oui, on l'a déjà fait à la bibliothèque Sorbonne Nouvelle. On l'a fait également lors d'un festival de poésie et également à la Maison de la Poésie à Rouen. C'est un texte du coup qu'on joue, qu'on essaie de mettre sur scène assez régulièrement quand on a des opportunités qui se présentent.
Mais bravo. C'est un texte qui vient de paraître en plus. Ce n'est pas très... Pas très ancien, non, la publication de Bête.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, il y a eu d'abord des lectures, puis le texte après. En fait, le livre est né après. C'est vrai que c'est un parcours un peu atypique pour un livre. C'est ça qui est intéressant.
Effectivement.
C'est que on a commencé à le lire en mars ensemble avec Moïse Aoulet Ahmed et avec un musicien qui s'appelle Hadi Nasreddin qui joue du oud. Et ensuite, le recueil, en fait, est né en décembre, mais déjà, on l'avait joué deux fois avant que le recueil naisse.
C'est une conception très particulière, là. On est à la croisée des chemins. On est une inspiration de peinture, d'exposition, si j'ai bien compris. On est sur une rencontre, on est à la croisée des langues aussi, et sur énormément de métiers et d'expertises créatives différentes.
Oui, tout à fait. C'est ça, je trouve, qui est beau autour de ce recueil, c'est que ce recueil aussi reflète bien le cheminement artistique de façon générale, qui est baigné de rencontres, d'idées qui vont se compléter par le biais aussi de rencontres que l'on fait, de créations qui vont immerger de façon différente. Et c'est ce que je trouve beau aussi dans l'art. Et je trouve que finalement, ce recueil est un assez bon reflet de ce cheminement-là.
Oui, oui, oui. Vous dites en introduction du recueil, donc qu'il est né de l'idée que chacun de nous est composé de sa propre bâtisse qui s'étend de nos racines jusqu'à nos branches. Qu'est-ce qui vous a inspiré alors, l'exposition que vous avez visitée, bien sûr, mais il me semble que c'est quand même un message que vous portez dans d'autres de vos textes, dans d'autres recueils que vous avez publiés. Qu'est-ce qui vous inspire, cette réflexion ?
Oui, alors là, ce qui m'a inspiré particulièrement pour ce recueil, mais aussi ce qu'on peut retrouver dans mes autres écritures, c'est effectivement la recherche de sens, notamment chez les personnes qui vivent un parcours d'exil ou de quête. Et là, la réflexion est venue vraiment d'un mot en arabe, bayt, qui signifie à la fois maison et à la fois le vers d'un poème. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'un même mot en langue arabe peut signifier deux choses qui sont différentes? Et en même temps, ça m'a inspirée dans cette quête justement de sa propre maison en soi, de son propre poème. Et c'est vraiment l'idée de cheminer en soi pour essayer de trouver sa propre lumière, avec l'idée effectivement que nous portons en nous notre propre maison, quelle que soit l'origine où on est venu, peut-être le pays que l'on a quitté, les proches que l'on a quittés. Mm-hmm. C'est essayer et tenter justement de se rappeler que nous avons notre propre maison, notre propre refuge en nous, et qu'il est possible d'y retourner régulièrement pour justement se ressourcer et retrouver sa lumière dans les moments particulièrement difficiles.
Mmh, c'est très beau, et de penser que la lumière est intérieure aussi, surtout.
Oui.
Pour en continuer sur l'idée de la conception de cet ouvrage, donc on a eu la conception intellectuelle, la conception poétique, on parlera du travail créatif peut-être en cours de deuxième partie, mais il y a aussi une conception particulière qui est matérielle, que vous avez travaillé, que la maison d'édition a travaillé différemment de d'habitude.
Oui, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que ces livres ont été façonnés à la main par une imprimerie. Donc la maison d'édition Les Carnets du Dessert de Lune est basée en Normandie, à Rouen. Et pour ce livre précisément, les recueils ont été faits à la main, façonnés à la main par Olivier d'ailleurs, que je remercie.
Chacun individuellement, on est d'accord.
Pardon ?
Chacun individuellement,
Oui, tout à fait. Chacun individuellement, c'est vraiment chaque livre a été fait à la main. Donc par Olivier et Patrick, qui lui a travaillé autour justement de la typographie aussi particulière de ce livre, qui est très belle, je trouve. Voilà. Donc c'est aussi toute la beauté du geste qu'il y a derrière ce livre et la confection vraiment. Finalement de la maison aussi jusqu'à la propre conception à main nue, je dirais.
Oui, il y a une volonté de la maison d'édition, ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette entreprise de création littéraire une maison, et la maison qui la valeur, l'idéal que vous transmettez dans votre poème, dans votre recueil, pardon. Donc en plus, et c'est très important pour nous à la librairie, on travaille beaucoup ces aspects-là depuis quelques temps. Vous l'avez dit, c'est une maison rouennaise, donc impression sur les presses du carnet du dessert de lune à Rouen. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, très vertueux en termes de production, en fait. On est sur une production française avec un papier qui est quand même qui est travaillé sans acide, c'est bien précisé dans le livre. Tout est façonné à la main. On a quand même cette volonté de s'inscrire aussi dans un bel objet et un objet qui fait sens.
Oui, tout à fait. C'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée quand j'ai découvert le livre, parce qu'on m'avait informé, la maison d'édition m'avait informé qu'il y aurait donc ce processus de création à la main.
D'accord.
Mais de le découvrir en vrai, c'est du coup, ça a été vraiment très touchant de voir tout ce cheminement-là se matérialiser entre les doigts.
Oui, effectivement, c'est émouvant. C'est émouvant et c'est aussi le propre de la poésie.
Oui.
Vous avez choisi, je crois, une musique, une chanson qui vous porte en ce moment à faire écouter à nos auditeurs. Quelle est-elle ? Quel est ce morceau ?
Oui, il s'agit de Transcabord, je ne sais pas si je le prononce bien. Et c'est un son, en fait, que j'aime beaucoup écouter en ce moment, car je trouve très, très aérien, très porteur aussi dans la profondeur de la voix. Mm-hmm. Et aussi, si vous avez l'occasion de regarder le clip, c'est de la danse un peu chamanique qui est très très belle, avec justement les éléments de la nature autour.
D'accord.
Et voilà, c'est donc un son qui me touche particulièrement.
Et qui vous habite en ce moment. Je vous laisse écouter ce morceau choisi, chers auditeurs, chères auditrices.
Ah. aunque yo diré bien pour un amour insoupçonné.
Écoutez L'Épluche Livre, nous sommes en compagnie de Noor Kadour, poétesse, romancière, éditrice. Noor Kadour, donc vous nous avez parlé de la conception, de la création de votre dernier recueil en collaboration avec les éditions du Carnet du Dessert de Lune et Moez Awed Ahmed. Excusez-moi pour la prononciation, je suis désolée. Dans cette seconde partie d'émission, j'avais envie d'orienter mes questions plutôt sur votre casquette d'éditrice. Parce que je crois savoir donc, que vous faisiez partie jusqu'à il y a quelque temps donc, d'une maison d'édition Montpellier-Rennes et vous étiez venue en radio pour nous parler de cette maison. Et vous avez, entre-temps, le chemin a continué. Vous avez créé, vous êtes en train de créer, vous allez tout nous raconter, les éditions du bout de la langue.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet de co-création avec deux autres femmes, Alice Chapaz et Anne Plantier.
D'accord.
C'est un projet, en fait, de création d'une maison d'édition de poésie, là encore, qui aimerait justement, qui tenterait de porter les voix... invisibilisées, minimalisées, qu'on ne lit pas forcément dans la poésie contemporaine, et de faire entendre ces voix grâce à cette maison d'édition.
Alors, Quand vous parlez de voix invisibilisées, minimisées, comment allez-vous les approcher? Comment allez-vous les trouver, les rencontrer, ces voix-là? Et quelles sont-elles si vous avez déjà quelques auteurs au catalogue?
Oui, alors effectivement, ces voix-là ont été recherchées justement pour la création là, de la maison d'édition qui est vraiment toute récente depuis août dernier. Et le premier texte qui sera apparaître est un texte de Caroline de Freitas qui s'appelle « Et je vivrai 10 fois ».
D'accord.
Et là, c'est en fait, on a lancé un appel à texte assez précis dans le sens où chacune d'entre nous a envoyé une demande en disant qu'il y a effectivement cette nouvelle maison d'édition qui existait. Mm-hmm. À des autrices qu'on aimait bien. Soit ce sont des autrices qui ont déjà publié, soit des autrices qui n'ont jamais publié, mais qu'on a eu l'occasion justement de découvrir lors de festivals de poésie, des fois lors de scènes ouvertes, mais des voix justement qui nous ont touchées. Et donc chacune d'entre nous a fait appel à deux poétesses dont elle aimait bien le travail. Et à la suite de ça, ces personnes nous ont chacune envoyé un recueil et on a choisi donc un premier recueil là pour la parution qui est prévue en mars prochain dans le cadre du Printemps des Poètes.
Comment ça se passe un appel à texte pour nos auditeurs?
Pardon?
Comment ça se passe? Comment on organise, on coordonne un appel à texte pour
alors
pour
là,
expliquer
là
à nos
effectivement,
auditeurs.
Vu que l'appel à texte s'est fait de façon très très ciblée, je dirais pour alors parce que effectivement d'habitude un appel à texte c'est une maison d'édition qui va annoncer sur son site internet ou sur les réseaux qu'elle est à la recherche de nouvelles voix poétiques à éditer, à publier.
D'accord. Donc,
ça c'est comme ça se fait habituellement par les maisons d'édition.
Donc c'est un peu bouche à oreille numérique, c'est ça?
Voilà, exactement. Okay. Souvent comme ça ou lors de rencontres aussi. Nous, cet appel à texte a été particulier dans le sens où il a été ciblé. C'est-à-dire que nous, on ne l'a pas annoncé sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais c'est que vraiment, on a contacté des personnes bien précises.
D'accord.
Dont on appréciait l'écriture en leur demandant si l'idée les intéressait de nous soumettre un recueil parce qu'on aimait justement déjà leur univers, leur écriture poétique. Donc, c'est dans le sens où c'était un appel à texte qui était vraiment ciblé.
D'accord, très bien. Donc c'est des voix que effectivement vous faites émerger complètement et auxquelles vous proposez même la possibilité, puisqu'elles n'ont peut-être pas forcément pensé publier, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est avant tout, c'est aussi dans une vision globale de la personne qui crée de la poésie. C'est-à-dire que c'est vrai que dans un appel à texte éditorial habituel, il peut y avoir du coup juste un recueil qui est envoyé. Mmh. Alors que là, les personnes à qui on a demandé de nous soumettre un texte, et là par exemple notamment Caroline de Freitas dont on a choisi le texte, c'est vraiment une personne dont on avait lu la poésie ailleurs et c'est vraiment dans la globalité que la poésie nous a touchés. Et c'est dans ce sens-là qu'ensuite on lui a demandé si elle y avait justement un recueil à nous faire parvenir.
Oui, vous défendez une vie intérieure dans son entièreté, si je comprends
voilà,
bien.
Voilà, exactement.
C'est ça, la
exactement.
Ligne.
C'est pas juste défendre un texte en particulier, mmh. mais c'est défendre aussi toute la personne qu'il y a autour, tout ce que la personne a comme conception de la poésie, de l'écriture.
D'accord, c'est hyper intéressant ça, parce qu'effectivement, beaucoup de maisons vont défendre un auteur tant qu'il travaille dans la ligne de la maison et dans ce que la maison va pouvoir penser, publier et défendre. Et très souvent, les auteurs, dès qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort, dès qu'ils explorent d'autres pistes, ils doivent aller chercher une autre maison. Et ça crée une identité artistique comme ça, un peu morcelée. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez réunifier, c'est bien ça?
Oui, exactement, c'est ça.
Okay. C'est une très belle approche du métier d'éditrice.
Mais merci beaucoup. On espère en tout cas que ce recueil aussi va rencontrer et toucher le public autant qu'il nous a touchés, parce que c'est un recueil, pour ce premier recueil qui a fait l'unanimité au sein du comité de lecture. Mm-hmm. Donc ça a été vraiment une évidence que ce soit ce premier texte qui soit publié par la maison d'édition.
Très bien. Et vous m'avez dit, pardon, la date de parution?
Alors, la date de parution sera le 6 mars, dans le cadre du Printemps des Poètes.
D'accord.
Et après, il y aura plusieurs événements qui seront prévus autour de ce lancement.
D'accord, très bien. Puisque nous avons défini ensemble le principe de votre maison, la ligne et votre relation donc à la vie d'écriture donc des auteurs que vous allez défendre, ce qui m'intéresserait là actuellement et ce qui fait sujet aussi de cette deuxième saison d'émissions radiophoniques Les Pluches Libres, ça serait de réfléchir, et si vous voulez bien dévoiler, votre relation à l'écriture et le processus de création que vous pouvez être amené à mettre en place. Est-ce que vous créez en musique? Est-ce que vous créez dans des conditions particulières? Et quelle relation vous avez avec cette écriture et ce processus créatif?
Oui, mais c'est très intéressant justement, parce que c'est vrai que moi aussi je m'intéresse au processus de création de façon générale, à découvrir aussi, rencontrer les processus de création de chacun. Alors pour moi, l'écriture est vraiment indissociable de la lecture. Ça veut dire que déjà dans mon processus de création, la lecture est vraiment très présente. Donc normalement, notamment pardon, dans le processus de création poétique, puisqu'effectivement, comme je disais, j'écris principalement de la poésie, c'est ce qui me porte au quotidien. Par exemple, chacune de mes journées est ponctuée vraiment de lecture de poèmes. Donc ça peut être en fonction du temps que j'ai, ça peut être des fois seulement un poème, mm-hmm. ou ça peut être, si j'ai un peu plus de temps, plusieurs poèmes dans la journée.
D'accord.
En processus de création, au sens large, chacune de mes journées, en tout cas, commence par la lecture d'un poème, d'un poème de quelqu'un que je découvre dans des recueils. Et parce que moi qui aime particulièrement la poésie, je trouve que la poésie me met dans un état émotionnel particulier qui me permet justement de vivre une journée déjà poétiquement en entrant en poésie dans la journée déjà.
Oh, c'est beau. C'est beau, c'est une belle entrée en matière. Mais c'est aussi donc une habitude, un peu comme une
oui,
habitude
vrai,
de nettoyer sa maison, sa demeure pour entrer dans la journée, c'est ça comme une hygiène?
Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est aussi finalement une habitude que j'ai prise au fur et à mesure des années. Au début, je le faisais de temps en temps, et là maintenant, c'est vrai que c'est devenu comme une habitude au réveil, oui, tout à fait.
Et depuis combien d'années?
Je dirais de façon vraiment régulière depuis un an à peu près, depuis un an et demi.
D'accord, très bien. Et vous avez vu donc une amélioration ou du moins une installation plus confortable dans votre art en prenant ce réflexe?
Alors j'ai vu effectivement que déjà personnellement de lire de la poésie le matin m'apaisait beaucoup déjà, donc ça me fait déjà énormément de bien. Et après c'est vrai que dans l'écriture je trouve que ça ouvre d'autres champs de création, un autre monde, notre vocabulaire aussi, de découvrir d'autres voies poétiques. Mmh. Et ça, ça a créé aussi une ouverture pour moi dans le processus de création en lui-même. Oui.
D'accord, très bien. Et pour l'écriture, comment, il faut un lieu en particulier ou vous pouvez écrire sur un coin de table dans le tram?
Alors l'écriture de poésie, ça peut être vraiment, c'est très aléatoire pour le coup, ça peut être vraiment à n'importe quel endroit, ça peut être à n'importe quel moment. C'est vrai que j'aime bien écrire aussi de façon générale le matin. Mais pour l'écriture de poésie... c'est souvent une voix qui me vient, et c'est-à-dire qu'ensuite je vais m'immerger dans cette voix-là de façon générale, c'est-à-dire que je ne vais pas simplement écrire pour ne rien dire, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se vit en moi. Mm-hmm. Et donc il peut y avoir par exemple des périodes où je ne vais pas écrire pendant 2, 3, 4 mois, mm-hmm. ou à l'inverse des périodes où je peux écrire vraiment tous les jours et avancer sur un texte en particulier. Je n'ai pas d'habitude entre guillemets d'écriture comme certains écrivains ou écrivaines peuvent avoir, c'est-à-dire de tous les jours c'est d'écrire par exemple une heure tous les jours ou quoi. Non, pour moi j'ai pas vraiment ça pour la poésie, c'est plutôt sous la forme de fulgurance, je dirais.
D'accord, ça rejoint votre manière d'être au métier d'éditrice, vous écoutez et vous faites advenir les voix que vous entendez et qui auraient besoin d'être entendues par plus de monde.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant, ouais. C'est tout à fait d'ailleurs, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais effectivement ça rejoint ça tout à fait.
En tout cas, c'est ce qui me semble que vous exprimez, et c'est vrai que c'est beau de voir une artiste dans cette globalité. Pour terminer cette émission, alors je tenais quand même à annoncer votre venue à la librairie, prochainement.
Oui, tout à fait.
Donc, pour une lecture en musique de Bates,
Oui, ce sera une lecture non musicale par contre.
Ah, non musicale.
Mais ce sera une rencontre et une lecture, oui, tout à fait.
Donc, je vous laisse l'annoncer puisque je ne dis que des bêtises.
On sera le mercredi 28 janvier à 18h à l'Épluche Livre et ce sera donc une rencontre et une lecture autour de ce recueil « Bait habiter le poème », suivi ensuite d'un moment d'échange et de dédicace.
Très bien, donc mercredi 28 janvier, donc c'est une rencontre en entrée libre à la librairie L'Épluche Livre. Donc pour nous trouver, c'est pas bien compliqué, c'est le tram ligne 2 à Rilla-Galine, on est juste à côté. Merci beaucoup encore Nour pour ce moment passé ensemble.
Ben, merci à vous pour votre invitation, merci pour ce beau moment.
Et je vous dis à très bientôt, à bientôt
à
chers auditeurs.
Bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
L'Épluche Livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde.